cours de philosophie du vivant par le Père Philippe à Saint-Judard le 24 octobre 89.
Tandis que l'âme informe le corps. Alors, l'âme est cause selon la forme. C'est comme cela que nous la découvrons. Cause qui détermine, cause fondamentale de la vie, c'est-à-dire des opérations vitales. Tandis que le corps est ce qui reçoit l'âme. Donc le corps est du côté de la cause matérielle. Et le propre de la cause matérielle, c'est de contracter, matérialiser. Contracter. Et par le fait même, par là, individualisé. Alors, on cherchera quel est ce qui proprement individualise. Et on dira que c'est la matière liée à la quantité. La matière liée à la quantité individualise. Matière individuante, comme on dira. C'est la matière qui implique la quantité, c'est-à-dire le divisible. Et c'est cela proprement qui individualise. Alors, se poser la question, pourquoi le corps individualise ? Parce qu'il est le corps. C'est le propre de l'élément matériel de limiter et par là d'individualiser. Qu'est-ce que c'est que l'individu ? L'individu, c'est du reste la question suivante, quelle différence y a-t-il entre identité et individu ? L'identité, c'est ce qu'on est par soi-même, identique à soi-même. Principe d'identité qui n'est pas un principe, mais que Leibniz a appliqué, que la scolastique a introduit. C'est A égale A. C'est très avancé. Père Garrigou dit ça. Il ne faut pas dire principe d'identité, il faut parler d'identité. Il n'y a pas de principe d'identité. Parler d'identité, chacun par rapport à nous-mêmes. On est identique à soi-même. Donc, c'est tout simplement le fait d'exister dans une unité. C'est l'unité au niveau substantiel, l'identité. L'individu, c'est cette unité réalisé de telle manière. C'est le pos qui implique l'individuation, qui implique donc la matière. On met l'accent sur la matière. L'identité, on met l'accent sur la forme. C'est l'âme qui me donne mon identité. C'est le corps qui me donne mon individualité. Et mon individu, c'est ce qui me distingue des autres en me donnant concrètement mon identité. Et en même temps, qui me distingue des autres, voyez. sale propre de l'individu. Alors, nous allons continuer ce que nous avions commencé la dernière fois, l'induction de l'âme, et voir que l'âme cause propre et fondamentale, disons plutôt cause fondamentale de toutes mes opérations vitales. Ce qui rend raison de toutes mes opérations vitales et de l'unité de mes opérations vitales au milieu de la diversité. Dès que je découvre l'âme, à travers ces opérations vitales qui impliquent le corps. Et je découvre l'âme comme forme propre du corps. Oui, principe fondamental de toutes mes opérations vitales et cause selon la forme du corps. Entre l'âme et le corps, il y a une identité de vie et d'être. C'est en ce sens-là que l'âme subsiste en elle-même. Alors c'est un très gros problème de savoir si, par l'induction, je découvre que l'âme subsiste. Je le découvre dans la mesure même où, dans mon induction, j'ai posé des opérations spirituelles. La pensée, l'amour. Si l'âme est source de toutes ces opérations et que ces opérations n'impliquent pas le concours du corps, il faut donc que la source de ces opérations subsiste par elle-même. Et donc, l'âme a une certaine subsistance qu'on précisera ensuite à cause de ces opérations spirituelles dont elle est la source. Puisque ce sont mes opérations. Je pense comme je mange. Comme, analogiquement, d'une manière toute différente. Je pense et je mange d'une manière totalement différente. Et pourtant, c'est toujours moi qui pense et qui mange. Il y a la même source, mais une source qui possède comme source cette diversité totale. Une source qui implique le lien avec le corps, une source qui implique d'être au-delà du corps. Je précise ensuite que l'âme est source de puissance propre de mes diverses opérations. Je suis obligé de faire cela parce que les opérations ont une telle diversité qu'elles ne peuvent pas relever immédiatement de l'âme. Et la diversité la plus grande, c'est évidemment entre penser et manger. Et donc, de l'âme émanent des puissances diverses. Vous voyez, on pourrait se poser la question, est-ce qu'à partir de mes diverses opérations, je ne dois pas induire une puissance propre ? À partir des diverses opérations, vitales, induit l'âme. Donc, mettez pensée, aimer, manger, boire. Vous pouvez mettre parler. Les gestes. Donnez la main à quelqu'un en lui disant bonjour. Vous unissez le geste et la parole. Toutes ces diversités, c'est moi. C'est ma vie. Alors, est-ce que poser, par exemple, l'intelligence. C'est important, parce que je parle toujours de l'intelligence comme si elle est de soi. Où est-ce qu'elle est, mon intelligence? Comment je la pose? L'intelligence, la volonté. Puis, manger. Poser une puissance, capacité d'assimiler le pain, le riz, et ainsi de suite. J'assimile beaucoup de choses. Quelquefois, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais j'assimile quand même, sans le savoir, ça qui est le mieux. C'est-à-dire que je ne peux pas penser sans savoir. C'est la très grosse différence de manger et de penser. Vous ne pouvez pas penser, je ne comprends rien, mais je pense. Je ne sais pas ce que je mange, mais je mange. Hein, comme c'est curieux. C'est vrai, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, je donne la main à un mannequin. Ça n'a pas d'importance. Non, je donne la main à quelqu'un. Bonjour à quelqu'un. Sauf ceux qui disent bonjour à tout le monde par la télévision. Bonjour. La speakerine, c'est ça. Et elle sourit. Alors, c'est, vous voyez, c'est une chose tout à fait particulière. Alors, faut-il poser l'intelligence et la volonté et la capacité d'assimiler le pain? Là, je précise. Et je pourrais très bien ne pas préciser, d'assimiler ce qu'on me donne à manger. Mais on me donne le pain, en premier lieu. Puisque pour bénir la table, il y a au moins le pain. Et c'est suffisant. Tout le reste est béni. Bien qu'ils soient encore très loin. Et le pain suffit, symboliquement. S'il n'y avait pas de pain, ce serait très gênant. Il y aurait l'eau. Ce serait déjà. Et s'il n'y a pas le pain et pas l'eau, on attend. Pour bénir. Oui, il ne faut jamais bénir une table qui est semblant une table. Des fourchettes. C'est pas capable de bénédiction. Alors, intelligence. Pensée. Est-ce que je pars de la pensée pour induire l'intelligence? Ou est-ce que je pars de l'âme pour poser l'intelligence? Oui, petit problème, ça, important. Je suis parti de la diversité de mes opérations vitales pour poser l'âme comme cause fondamentale de toutes mes opérations vitales. Alors, pour poser l'intelligence, je reviens à la pensée. Oui, il y a un va-et-vient. Je reviens à la pensée, je pense, et je regarde la pensée sous la lumière de l'âme. supposée cause fondamentale de toutes mes opérations vitales. Et revenant à ma pensée, sous la lumière de l'âme que je viens de poser, je dis, cette pensée relève fondamentalement de l'âme. Mais entre l'âme et la pensée, il doit y avoir une puissance propre d'où émane l'intelligence, d'où sort l'intelligence, pas émaner, d'où l'intelligence est le fruit. L'intelligence, c'était la pensée. Je pose l'intelligence comme puissance propre de la pensée, avec l'âme. Et voyez pourquoi ? Parce que l'âme n'est que cause fondamentale de toutes mes opérations. Et cette opération particulière de la pensée a besoin d'avoir une source propre. Cette source propre, quel est son lien avec l'âme ? C'est que l'âme est elle-même cause immédiate de l'intelligence, comme puissance propre de la pensée. Mais c'est assez complexe, hein ? C'est pas simple. L'induction de poser l'âme est simple. Je reviens à mes diverses opérations pour voir si l'âme explique suffisamment. Et je dis non. Il faut un principe propre. Et ce principe propre, c'est la puissance. Ce qu'on a appelé en scolastique faculté. Il ne faut plus appeler comme ça. Faculté. J'aime mieux dire puissance. Revenir au grec. Dynamis. Parce que faculté a été tellement abîmé dans tous les sens que il ne faut mieux plus dire faculté. Il faut dire tout simplement puissance. Je pose une puissance propre, source immédiate de ma pensée. Mais cette puissance demeure toujours liée à l'âme. Elle émane de l'âme, elle provient de l'âme. Et donc l'âme coopère avec la puissance. Oui, c'est pas une puissance séparée, oui.
Est-ce qu'on peut dire que les deux inductions seraient comme la première regardant le genre, le fait de vivre,
que
la première induction se fait regardant les autorités des opérations tout à l'heure, en tant qu'elles sont rituelles, c'est-à-dire pour le genre,
oui, oui.
Et la seconde en regard sur l'aspect différence spécifique.
Il y a un peu ça.
Plus le rapport de la faculté à l'âme.
Il y a deux inductions, si vous voulez. On peut le dire. L'une, je pose l'âme cause fondamentale, puis je reviens sur la pensée, dans la lumière de l'âme.
Ce que je veux dire, c'est quand on dit que les causes fondamentales, elles regardent d'abord non pas la spécificité de l'opération vitale.
Absolument pas. Elles regardent la diversité des opérations et l'unité dans cette diversité, et uniquement. Tandis qu'après, je pose pour le caractère spécial de chacune de ces opérations. Et pourquoi je dois faire ça ? Parce que les opérations vitales sont immanentes. Donc exigent un principe immanent. Et c'est pour ça que je suis obligé de poser un principe propre. Oui, c'était simplement pour une opération extrinsèque, je ne le poserai pas. Mais je ne pose pas une nouvelle faculté pour expliquer, par exemple, l'opération artistique. Je pose l'intellect pratique, qui n'est pas une nouvelle opération, une nouvelle faculté. C'est parce que c'est une opération immanente, toutes les opérations vitales. Et en analysant la pensée, je dis la pensée est une opération immanente, vitale, spirituelle, indépendante du corps, dont la cause efficiente est la puissance, mais cette puissance demande une cause spécificatrice qu'une cause formelle qui est l'objet. L'objet, c'est la réalité connue. On verra ça plus tard, hein, simplement pour le poser maintenant. Oui.
Le corps a quand même une influence sur la pensée.
Sur la pensée? Oui. Indirecte. Non, on l'étudiera après. Voyez. Et la pensée comme telle a quelque chose qui l'isole, qui la sépare du corps. Puisque je pense quelque chose d'universel. Je pense l'âme. Ayant induit l'âme, je vois que je touche un principe. Et ce principe est quelque chose au-delà du corps. Oui. Donc, l'induction que je pose de l'âme exige, c'est pour ça que je dis, dans la lumière de l'âme. Oui. Exige de poser une puissance qui n'est pas liée au corps. Alors, je pourrais, dans l'analyse immédiate de la pensée, déjà le dire. Mais comme j'ai l'induction de l'âme comme principe, je peux le dire tout de suite. Oui.
La faculté plutôt qui correspond, qui est source des opérations vitales végétatives, disparaît. Il n'y a plus d'exercice dans l'ordre végétatif qui est sensible à la mort et au niveau de la puissance vitale.
La puissance est différente selon les. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Hein. Là, vous anticipez un peu. Mais je regarde d'abord ça. C'est que de l'âme, je pose l'âme, je induis l'âme comme cause fondamentale étant donné la diversité des opérations vitales. Ensuite, je pose une diversité de facultés pour ces diverses opérations. Mais je me poserai la question maintenant, cette diversité de facultés implique un ordre différent. Et c'est ce qu'on appellera les différents degrés de vie. Vous voyez, vous allez, j'espère, comprendre. C'est pour ça que cette induction de l'âme est très particulière, vous voyez. Elle est beaucoup plus complexe que l'induction des substances. Beaucoup plus. Parce que je saisis une cause fondamentale qui demande d'être déterminée, qui ne suffit pas. Il faut que tout de suite, je précise, divers puissances propres à ces diverses opérations. Parce que les opérations vitales sont toujours immanentes. Et donc, réclament une cause immédiate. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que dans cette diversité des facultés, il y en a une, les unes, sont séparées du corps. Les autres impliquent le corps. Première grande séparation. Je dirais donc, les puissances spirituelles séparées du corps. Puis les puissances impliquant le corps. Séparé du corps. L'intelligence, la volonté. Ceci présuppose évidemment l'analyse de la pensée et l'analyse de ce que c'est qu'aimer. Et ceci en fonction de leur objet propre, de ce qui les spécifie. Primo cadit in intellectus ens. Ici le bien. l'être et le bien n'implique pas nécessairement le corps. Puisque c'est saisi sous un mode universel. Universel, ça fait partie des différents objets que je connais. Je saisis animal, je peux penser animal. Donc le genre est universel. Je saisis le bien est universel aussi. Il est divers, multiple. Et puis les facultés qui impliquent le corps. Alors ici, toutes les opérations sont liés directement au corps, dont leur objet est corporel. L'aliment, la boisson. Et je vois que d'autres opérations sont liées au corps d'une autre manière. Toutes mes opérations de connaissance sensible, la vision, est liée au corps. Je vois la couleur, liée au corps. C'est telle couleur que je vois. C'est pas la couleur. C'est telle couleur. Telle lumière. Telle chaleur, et ainsi de suite. Et cependant, il y a quelque chose de tout à fait différent entre la connaissance et l'aliment. C'est que quand je vois une rose, un bouquet de fleurs au pied de la Vierge Marie. Je vois ces fleurs. Je peux les regarder, je ne les abîme pas. Elles ne rougissent pas. Tandis que tout à l'heure, on va me servir du pain, on va me servir un plat. Je le regarde. Mais je ne me contente pas de le regarder. Je m'en sers. Et je m'en sers d'une manière telle que je le mange. Évidemment, je pourrais manger de façon plus primitive, laisser le plat au milieu et faire comme chacun, on prend directement. N'est-ce pas? Mais vous voyez toute la différence. L'aliment, je le transforme. La couleur, je ne la transforme pas. Je constate ça tout de suite, hein, c'est facile à constater. L'air, je le respire et je le transforme. Je l'assimile. Réellement, biologiquement, sensiblement. Et ce que je mange, mon voisin ne l'a pas. C'est pour ça que c'est très gênant d'être derrière un voisin qui a un appétit d'ogre. Il ne reste jamais plus rien. Je ne dis rien parce que je suis très vertueux, mais autrement, il n'y a plus rien. Il prend tout. Alors, quand même, heureusement qu'il y a un troisième qui s'en aperçoit et qui fait la remarque. Tandis que on peut être à côté de quelqu'un qui regarde le bouquet de fleurs, admirable, oh ce qu'il est beau. Ça ne change rien, le bouquet de fleurs demeure. Il y a là donc une très grande différence que j'essaie de comprendre. Quelle différence y a-t-il entre regarder quelqu'un, je te regarde, je te mange de mes yeux, et celui qui est regardé, il n'est pas mangé. Il reste le même. Tandis que manger des carottes, ne rougis pas, parce qu'on mange des carottes rouges. On les assimile. On transforme les carottes en nous-mêmes. Oui, donc il y a deux types d'assimilation. Deux types d'assimilation. Et même trois types d'assimilation. La vie assimile toujours tout. Mais je vois qu'il y a une différence dans l'assimilation. Je suis plus ou moins dépendant de la réalité extérieure dans cette assimilation. Quand il s'agit de l'aliment, la suprême dépendance, je ne peux pas assimiler les carottes sans les manger. Je peux les assimiler en les regardant. Alors elles peuvent être éloignées, puis je ne change rien. Et je peux les penser, même quand elles sont très loin. Vous voyez ? Je peux continuer de penser aux carottes pendant tout le repas. Elles m'ont tellement frappé. Je les ai aimées, ces carottes. Donc je continue d'y penser. Donc vous voyez, je les mange, je les regarde, parce que c'est la première chose qu'on fait. Je les regarde. En les regardant, je les respecte. On les a tous regardés en même temps. Je les respecte. Je laisse le premier servir. Je fais attention qu'il en reste encore un peu. Je me sers. Je les mange. Je les assimile. Après moi, le déluge. Il n'y a plus rien. Et je continue d'y penser. Donc, trois types d'assimilation. L'assimilation du côté de la pensée, l'assimilation parce que je les aime, l'assimilation parce que je les ai vus, la vision, l'assimilation parce que je les ai mangés. Vous avez trois types d'assimilation. Ça, vous pouvez comprendre ça tout de suite. D'où trois degrés de vie. Le degré de vie végétative, le degré de vie sensible, le degré de vie spirituel. Trois degrés de vie. Trois degrés de vie. C'est ce qu'Aristote donne dans le De Anima, qui est très ancien du reste, hein. Les pythagoriciens avaient déjà inventé ça, les trois degrés de vie, de façon un petit peu différente, parce qu'ils l'avaient fait du point de vue éthique, avant tout, et Aristote le fait de façon spéculative, à partir de l'opération vitale. Trois types d'opérations vitales, à propos d'assimilation. Trois manières d'assimiler différemment ce qui est objet de ma vie. L'assimilation brutale de celui qui mange. C'est un égocentrisme effrayant. C'est vrai. C'est effrayant de manger. Hein. J'assimile. Je mange. Vous voyez cet égocentrisme. Je mange. Devant toi. J'ai pas peur de montrer mon égocentrisme dans cette mendication. Je mange devant toi, et devant toi, ce que je mange n'est pas pour toi. C'est ça que des personnes ne veulent pas manger en public. C'est quand même répugnant de manger en public. Je montre devant tous les autres que je ne pense qu'à moi en mangeant. Et je ne pense pas à toi. C'est quand même curieux. On est très habitué. Une espèce d'importance. Tout à l'heure, en y pensant, continuez quand même de manger. C'est évident. Je vois. Dans la vision, je suis dépendant de la réalité immédiatement présente. Je ne peux pas voir quelque chose qui n'est pas présent. Je peux me mémorer, me souvenir, imaginer. Ah, déjà une plus grande indépendance. Mais la mémoire et l'imagination dépendent immédiatement de la sensation. C'est pour ça que ça reste dans le même degré de vie. Puis je peux penser. Et là, je suis très indépendant. Je suis dépendant, c'est évident, de l'expérience. Mais il y a une coupure. Et je pense au-delà de l'expérience. Puisque ma pensée peut avoir ce mode universel. Et donc je suis beaucoup moins dépendant de la réalité existante autre que moi. Mais je vois comment la vie, plus elle est parfaite, plus elle me donne d'indépendance. Le vivant possède en lui une capacité d'autonomie très radicale. Évidemment, le vivant de vie végétative n'est pas entièrement autonome. Ça, c'est sûr. Il dépend du milieu. Il broute l'herbe. On continue de le faire en prenant de la salade. Il broute l'herbe. La différence d'être attaché à un poteau et d'être dans le potager, on vous regroupe ensemble et on mange l'herbe ensemble. Et on est dépendant de l'herbe, dépendant du milieu. Ça c'est sûr. Et quand le plat est vide, on ne peut plus continuer de manger. On demande de le remplir. Mais c'est terrible comme dépendance. On est limité par ça. Quand la mission revient d'indépendance déjà beaucoup plus grande, je peux même me souvenir, imaginer. Et même dans l'imagination, je reste dépendant des sensations. L'imagination reste sensible, particulière. Je me représente. Dans la pensée, j'ai une indépendance beaucoup plus grande. C'est la signification. Donc, vous voyez, 3 degrés de vie. Et dans les 3 degrés de vie, il y a diverses facultés. Alors, nous avions vu, l'année dernière, le degré de vie végétative. La respiration. La manducation. Le fait de boire. Ça, c'est la vie végétative dans ce qu'elle a de tout à fait fondamental. Je respire. Premier rail de ma vie végétative. La première respiration de l'enfant. Il respire. Après, il peut boire. Ensuite, c'est le beefsteak. Ce qu'on ne mange que quand on mange un beefsteak. Hein. Ouais, c'est secondaire. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on jeûne tout le temps tant qu'on ne mange pas de beefsteak. Vous voyez très bien. Au couvent, on jeûne tout le temps. Il n'y a pas de beefsteak. Alors, on jeûne tout le temps. Et c'est vrai, ça, c'est très juste. Mais on mange. On boit de l'eau. Jour de fête, le vin. C'est boire. Toute la vie végétative. Dans la vie végétative, il y a se nourrir, on assimile l'aliment, et en l'assimilant, on le transforme. Et c'est une assimilation qui fait une unité substantielle. L'aliment, je m'en nourris substantiellement. C'est pour ça que l'aliment dont on se nourrit substantiellement, le beefsteak, la viande, les animaux carnivores, évidemment, par volonté, je peux devenir un animal qui n'est plus carnivore et qui ne fait que brouter. C'est une décadence pour la vie végétative. Ça, c'est sûr. Parce que l'animal supérieur, il dévore. Et l'animal tout à fait, il respire. Et puis il prend du sang de temps en temps. C'est du moustique. La vie végétative, on se nourrit. Assimilation substantielle. L'aliment devient mon corps. Après toute une série d'opérations. J'assimile. Et je rejette tout ce que je n'assimile pas. C'est une espèce de chose très extraordinaire, l'assimilation. Et tant qu'on assimile, on est un vivant. Le jour où on n'assimile plus, ah, on dépérit. L'assimilation permet la croissance. Quand on est jeune, on grandit. La croissance. Il arrive à un certain âge, on plafonne. On ne grandit plus. Les cheveux continuent de grandir, mais on les coupe. Montrer la taille. On reste sur le haut plateau, puis on diminue. C'est extraordinaire de voir ça. Parce qu'aujourd'hui, on continue de les garder longtemps. Les vieilles mémées, vous voyez ? On les garde longtemps. Mais elles diminuent. C'est le phénomène de petits pygmées, c'est pas, qui diminuent. Très curieux. Vous voyez, il y a la croissance, le haut plateau, la diminution. Et quand on est plein de vie, capable d'engendrer, la capacité d'engendrer, c'est-à-dire être source de nouvelle vie, la procréation. Voilà les grandes opérations de la vie végétative. Et pour la vie végétative, la procréation finalise la vie végétative. La nutrition, c'est l'opération caractéristique de la vie végétative. La faculté d'augmenter, c'est pour tout le devenir. La faculté diminuer, c'est vers la corruption. Ça, c'est sûr. On va vers le bas. On n'a plus la puissance d'augmenter. Et puis, la procréation, c'est la puissance de la vie parfaite.